Et bonjour chers auditeurs des Clés du Gîte. Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets qui feront décoller votre activité de location saisonnière? Eh bien, préparez-vous car j'ai une nouvelle passionnante à partager avec vous. Le rendez-vous des pros de la location saisonnière arrive le 31 mai 2024 avec un dîner VIP exclusif dès la veille. Cet événement est l'occasion en or pour tous les acteurs de se rassembler, échanger sur les meilleures pratiques et rencontrer les grands noms du secteur. Au programme, pas moins de 23 conférences captivantes et des espaces exposants pour découvrir les dernières innovations. Mais ce n'est pas tout. Pour les propriétaires de plus de 20 biens, bénéficiez d'avantages exclusifs, dîner VIP, accès à une masterclass privée de Booking.com et bien plus encore. Vous êtes passionné par le networking, les conférences riches en contenu? Vous avez envie de rencontrer en personne les sociétés avec lesquelles vous travaillez? Alors ne manquez pas cet événement incontournable. La place salon vous permettra d'accéder à l'ensemble des exposants et des conférences. Les places sont limitées, alors utilisez dès maintenant le code promo CLÉDUGÌTE24 pour réserver votre billet au tarif réduit valable sur les billets salon et les billets salon plus mastermind. Retrouvez toutes les infos sur www.rdvlocationsaisonnière.com. Au singulier tout attaché.com rdvlocationsaisonniere.com. Prenez vite votre place pour cette journée exceptionnelle qui pourrait transformer votre activité.
Et puis après, il y a aussi, alors c'est sûr hein, que nous, en décidant de faire cette activité, on est tout à fait conscient que par rapport à nos revenus précédents, bah, notre train de vie, il est divisé par 4, voire par 5. Mais d'un autre côté, on vit aussi dans un cadre qui est plus satisfaisant pour nous. La maison, c'est notre outil professionnel, donc on en profite quand même pas mal. On a moins de loisirs, mais on a aussi un cadre de vie qui s'est amélioré. Donc, ça se calcule pas que avec ce que tu as dans la poche à la fin du mois.
Bonjour, je m'appelle Laura et je vous accueille sur le premier podcast dédié aux propriétaires et futurs propriétaires de gîtes ou de maisons d'hôtes. Comme mes invités, j'ai eu mon propre gîte pendant plus de 3 ans après avoir travaillé 15 ans dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, le gîte est vendu et je me consacre à l'accompagnement de celles et ceux qui ont pour projet de se lancer dans l'aventure. Vous entendrez ici des témoignages d'hôtes passionnés et passionnants, prêts à vous raconter leur parcours tout en vous donnant un maximum de conseils. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tout l'univers des Clés du Gîte? Car en plus de ce podcast, les Clés du Gîte, c'est aussi une magnifique communauté de professionnels qui s'entraident toute l'année sur le compte Instagram, et depuis un an, c'est également une plateforme d'accompagnement pour vous guider dans votre parcours de création d'hébergement. Une mine d'informations vous attend sur Insta, en newsletter ou sur le site www.lesclésdugite.fr. Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois et merci à tous les autres pour votre fidélité. Bonne écoute! Bonjour Nicolas!
Bonjour Laura.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à témoigner dans le podcast. Alors ma toute première question, c'est où tu te trouves et qu'est-ce qui t'entoure?
Écoute, en tout cas, c'est avec plaisir que je participe. Là, je suis dans la salle à manger de notre maison d'hôte qui est située sur la côte d'Opale et qui porte le nom de Moulin.
Oui, très joli nom. Comment il est venu cette idée?
Alors en fait, historiquement, sur cette propriété, on y fabriquait de la farine. Il y a toute une partie des bâtiments qui étaient consacrés à cette activité. Il y a des traces historiques qui remontent assez loin, à plusieurs siècles de l'existence d'un moulin à cet endroit dans le village. Bon, le bâtiment qu'on occupe, il n'est pas si ancien. Néanmoins, avant nous, il y a une famille qui a occupé la maison pendant 5 générations et qui produisait de la farine ici.
D'accord.
Et il y a toujours une roue, en fait, alors qui n'est pas la roue d'origine, mais qui marque l'emplacement de l'ancien moulin. Il y a une partie des bâtiments qui subsiste. Et on a choisi ce nom un peu comme une ritournelle, en fait, la chanson du meunier et du moulin qui se répète. Et puis, on se dit que de le dire deux fois, c'est aussi une invitation à y venir et à y revenir.
Ah oui, ah j'adore. Excellent. Bon, alors, comment elle a commencé cette histoire? Donc, vous êtes avec Jérémy, tous deux Lillois, je crois, ou en tout cas, vous
C'est
étiez à
ça,
Lille,
exactement.
et vous avez décidé de tout quitter pour reprendre le moulin. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est né le projet?
Alors, effectivement, nous étions, Jérémy et moi, tous deux résidents et citadins. Nous vivions en centre-ville en centre-ville de Lille. Et puis, bon, moi, j'ai toujours eu cette idée que je ne ferais pas la même chose toute ma vie, que de toute façon, il fallait avoir plusieurs métiers et plusieurs vies en une. Et puis, bah, il y a un truc qui s'est passé, c'est cette fameuse pandémie de Covid qui a fait qu'on s'est retrouvé enfermé dans cet appartement en plein centre-ville pendant des semaines et des semaines. Alors, on avait de la chance hein, parce qu'on avait de la surface, on avait un petit balcon. Pour autant, on s'est rendu compte un peu du manque de sens en fait qu'avait cette vie en ville. Ça a coïncidé aussi de mon côté avec une déception professionnelle qui a précipité en fait la fin de mon boulot à une époque où c'était pas du tout quelque chose auquel je m'attendais. Et puis je me suis relancé à mon compte, etc. Mais voilà, ça, je trouvais pas mon équilibre. Et puis en fait, une fois que le confinement est passé, est venue cette idée de pourquoi pas finalement changer de vie. Alors c'est moi bien sûr qui étais moteur parce que c'est moi qui vivais une déconvenue professionnelle. Et lui, Jérémy, il était super heureux dans son boulot, il adorait, il était hyper investi. Mais il n'était pas contre l'idée d'aller s'installer au vert. Donc on a commencé à chercher des maisons un peu partout. Moi j'avais carrément envie d'ailleurs, donc on cherchait dans d'autres régions. Et puis en fait de faire des recherches comme ça sur Internet, finalement, t'es avec les cookies et compagnie, tu te retrouves à chaque fois que tu te connectes à Google avec des bannières publicitaires dans tous les coins. Et là, du coup, j'avais plein tout le temps des sollicitations d'agences immobilières avec des bannières publicitaires. Et puis, j'ai vu passer une photo d'une maison avec un grand plan d'eau. Et puis, en cliquant dessus, la description disait que c'était situé entre Le Touquet et Herdelot, sur la Côte d'Opale, région qu'on connaissait très bien parce que bon, on allait venir en week-end. Et puis, moi, surtout, j'y viens depuis que je suis tout petit avec ma grand-mère. Et donc, on s'est dit, ben finalement, la Côte d'Opale, c'est un bon compromis parce que c'est pas très loin de Lille. C'est une région qu'on connaît, donc c'est un changement de vie, mais sans partir à l'aventure. On a les copains qui continuent de venir pendant les vacances sur la côte. Donc, c'était assez facile. Et puis, Jérémy, il envisageait de garder son boulot. Donc, c'était jouable, en fait. Et c'est comme ça qu'on a visité alors cette maison. Puis, pour se faire une conviction un peu plus affirmée, on a visité d'autres biens sur la Côte d'Opale. On a un peu hésité et puis finalement on est quand même revenu sur cette maison au bout de quelques mois.
Et c'était quoi l'histoire de cette maison, justement? Est-ce qu'elle était en vente depuis longtemps? Elle avait été abandonnée ou
Non, alors en fait, il y a une famille qui vit encore dans les environs, hein, qui a vécu dans cette maison pendant 5 générations et qui a exploité le moulin. L'activité, elle, du moulin s'est arrêtée, enfin, de production s'est arrêtée dans les années 70. Puis la famille a vécu jusqu'à la fin des années 90. La maison étant trop lourde à gérer, elle a été mise en vente et elle a été acquise par un couple qui était, je crois, en seconde noces, en fait, et qui a choisi cette maison pour bah, refaire une vie à deux. Et eux y ont créé des chambres d'hôtes et des gîtes. Donc ils ont fait déjà pas mal de transformations à l'époque et ils sont restés dans la maison pendant 25 ans, il me semble. Et donc ils ont vendu, eux, ils ont mis en vente en fait après plus de 20 ans d'activité, je pense un peu fatigués parce que c'est un métier qui est quand même physiquement et moralement très très prenant. C'est un métier de passion mais c'est quand même dur. Et donc, je pense que eux, l'âge venant, l'envie de retraite, et puis peut-être une lassitude, ont arrêté l'activité. Je pense que le Covid les a bien aidés aussi à ralentir le rythme. Ils ont continué un petit peu la maison d'hôte, mais ils ont arrêté les gîtes et ils y ont mis des locataires qui vivent là toute l'année. Et puis ils se sont décidés à vendre. Je pense que la maison, ils ne l'occupaient plus tellement parce qu'ils étaient déjà propriétaires ailleurs. Donc la maison n'était pas très occupée. Elle était entretenue, mais juste ce qu'il faut. Et donc, je pense qu'il était temps qu'elle trouve de nouveaux propriétaires parce qu'elle allait commencer à s'abîmer. Et puis, il y avait des gros travaux d'ordre technique, comme les toitures, le système de chauffage, etc., qui était à revoir. Donc, je pense qu'en fait, ils ont vendu au bon moment. Et je pense qu'ils l'ont vendu assez vite. En tout cas, nous, quand on l'a vu, ça faisait pas longtemps qu'elle était en vente. J'imagine qu'on n'a pas été les seuls à visiter, mais on a acheté en quelques mois. Donc, peut-être qu'elle a été mise en vente, je sais pas, en juin ou juillet. Et nous, on est arrivés, on a eu la maison en mars l'année suivante. Donc, ça s'est fait relativement vite pour des grosses maisons comme ça. Je pense que le délai pour eux a été assez rapide.
Ah oui, complètement. Et ça faisait partie de tes choix ou de vos choix avec Jérémy d'essayer de trouver justement un bien qui soit déjà en activité ou là finalement c'est un peu le hasard.
C'est un
Ouais.
hasard. C'est un hasard. Alors, c'était alors c'était un hasard parce qu'on avait d'autres biens qui n'étaient pas du tout et qui n'étaient pas aménagés. Mais d'un autre côté, ça a aussi fait pencher la balance. Parce que d'avoir déjà des locataires qui vivent là toute l'année, bah, ça assurait quand même des revenus. Donc, bah, pour obtenir des financements, c'est quand même plutôt pratique. Voilà. Et puis le fait que, bah, effectivement, il y avait comme c'était déjà une maison d'hôte, il y avait déjà en fait des salles de bain. Alors, c'était pas du tout à notre goût et on a tout refait. Mais la maison était configurée de telle sorte où ça demandait pas des transformations incroyables, de devoir créer une salle de bain par chambre, de devoir créer des espaces communs, etc.
D'accord. C'était plus une mise à votre goût, quoi.
Exactement. Alors on a fait
Ouais.
des gros travaux d'ordre technique, mais sinon, en termes de disposition et de découpe des pièces, etc., c'était déjà fait. Donc on a juste reconfiguré un peu les salles de bain pour les mettre de même, pour que c'était pas suffisamment confortable à notre goût, donc on les a quand même refaites. Mais la maison s'y prêtait bien. Et donc effectivement, le fait qu'il y ait déjà eu pendant des années une maison qui était connue pour de l'hébergement touristique, qui avait une certaine notoriété dans la localité.
Ça marchait bien pour eux?
Ouais, je pense que ça marchait très bien.
Ouais,
Je
d'accord.
pense que ça marchait très bien. Alors ça marchait très bien avec une maison d'hôte dans le style des maisons d'hôte des années 80-90, hein. C'était
Oui.
pas du tout.
À leur niveau de standing, on
C'était
va dire que
ça.
c'était. Ouais, d'accord. Et du coup, tu as bénéficié des bilans comptables et autres pour
Non.
justement monter ton dossier? Tu t'en es pas servi?
Alors, c'est pas qu'on s'en est pas servi, c'est qu'en fait c'était inexistant. En fait, je sais pas si c'est très bien de dire ça alors qu'on a enregistré, mais je pense que c'était fait de manière un peu artisanale, on va dire.
D'accord, ouais.
Voilà.
Pas comme moi, quand j'ai racheté mon gîte, c'était voilà. Bon.
Donc, et puis c'est surtout qu'en fait, eux, ils vendaient la maison, ils n'ont pas vendu leur activité. Donc, on a vraiment racheté que des murs. On n'a pas acheté une société qui fonctionnait et qui faisait de l'hébergement touristique. Je pense que
Bien
pour eux,
sûr.
c'était aussi d'un point de vue fiscal, c'était considéré comme la résidence principale. Donc, ils n'avaient pas créé de société. Nous, on est sur un mode de fonctionnement et un business model qui est complètement différent. Nous, c'est un commerce. C'est pas.
Ouais, tout à fait. Et vous l'aviez imaginé dès le départ comme ça. L'idée de ce projet, c'était que ça devienne à tous les deux votre activité professionnelle ou dans un premier temps peut-être que la tienne et clairement de pouvoir vous rémunérer très rapidement avec cette activité.
Non, en fait, c'est cette propriété telle qu'elle était présentée et avec tout ce potentiel qui a amené le projet vers une activité qu'on espère un jour pour nous deux. En fait, quand on s'est dit qu'on allait changer de vie, déjà la première démarche était d'aller au vert, de s'éloigner du centre-ville et d'avoir une vie un peu plus slow. Bon, alors, avec l'activité chambre d'hôte, la vie slow, t'oublies complètement. Hein, mais sur le principe, on voulait quand même être loin de l'agitation urbaine. Voilà, quand on s'est dit on va faire des chambres d'hôtes, selon le type de maison qu'on aurait trouvé, ça aurait très bien pu être une activité qui permettait juste de payer les charges de la maison et d'avoir une jolie maison. Ça aurait pu être une activité pour moi seul où j'aurais eu deux, trois chambres. Là, finalement, de se dire qu'il y avait un potentiel pour faire quatre chambres dès la première année, qu'on avait une réserve de studio qu'on pouvait, enfin d'appartements qu'on pouvait, d'anciens gîtes qu'on pouvait transformer en appartements, etc., en studio de vacances. Ça a configuré le projet et c'est devenu rapidement quelque chose qui était en tout cas envisageable de se dire qu'on pourrait un jour en vivre tous les deux et que ça allait devenir une vraie activité professionnelle.
D'accord.
Voilà.
OK.
Et c'est ça qui nous amène à développer des tas de services autour parce que on veut vraiment que ça soit notre activité et on veut que la maison vive toute l'année.
Oui. Et dans ce cas-là, ben, faut multiplier les sources de revenus. Et
C'est ça.
OK, ben, on en parlera parce que c'est justement une des choses que je me suis marquée. Tous les deux, vous aviez de l'expérience dans l'hospitalité. Est-ce que vos carrières respectives avaient un lien ou en tout cas des compétences que vous pouviez après utiliser pour la chambre d'hôte ou rien à voir?
Absolument pas. En fait, après, on avait, et en fait, on est tous les deux des personnalités qui sont certes complémentaires, mais très très différentes. Et donc, moi, je suis designer de formation, j'ai enfin, même architecte d'intérieur,
Ah,
et
super!
j'ai toujours travaillé que dans le retail. Donc, je faisais des concepts de magasins,
Trop bien.
de restaurants, de showrooms, etc., avec des fortes dimensions de marketing. Donc, il y a effectivement des choses qui m'aident aujourd'hui dans mon métier. Parce que je vendais à mes clients des prestations de merchandising et de parcours client, etc. Donc, tout ça m'aide aujourd'hui. Et Jérémy, lui, est opticien, optométriste, et il travaillait ces dernières années comme développeur pour une chaîne d'optique étrangère, et il travaillait, lui, en Belgique.
D'accord, OK.
Donc, rien à voir, en fait, avec le métier
Non.
d'hôtellerie. La seule chose qui voilà la seule chose qui peut-être nous prédestinait à faire ça, c'est qu'on aimait recevoir, mais ça n'allait pas plus loin.
D'accord. Et Jérémy, il a quitté son emploi maintenant ou est-ce qu'il a toujours...
Oui.
Ouais, donc vous êtes
Ouais.
tous les deux à 100% sur l'activité de la chambre
C'est
d'hôte.
ça. Alors pour Jérémy, c'est en train de se préciser parce que là, il est dans un temps de réflexion, de se dire que est-ce qu'il a vraiment à temps plein avec moi, parce qu'en fait, quand même, il continue de chercher une activité à côté. Moi, je continue aussi un petit peu en freelance mon métier. Voilà, ça va s'arrêter dans quelques mois parce que pour ma part, en tout cas, j'ai plus les ressources émotionnelles pour faire ce métier de création. J'ai moins envie, tout simplement. Et donc je vais être full time sur la maison. Et Jérémy, voilà, il se laisse encore quelques mois pour préciser les choses. Et voilà, ça va aussi avoir des répercussions sur la manière dont on va se développer.
Tout à fait. Quand vous avez fait les recherches pour le nouveau bien, quels étaient vos critères indispensables? Vous vouliez beaucoup de terrain, tu voulais aussi qu'il y ait pas mal de dépendances ou est-ce qu'il y avait comme ça des points qui
Alors,
indispensables?
en fait, on n'avait pas de cahier des charges.
Ouais.
C'est juste que nous, on fonctionne, ben, je pense, comme beaucoup de personnes, hein, même sans s'avouer, mais au coup de cœur. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble et on a déménagé 5 ou 6 fois. Et à chaque fois, en fait, on est parti dans des endroits qui n'avaient rien à voir, parce qu'on tombait sous le charme de lieux et qu'on avait envie de les rénover. En fait, le seul fil rouge, du coup, c'est plutôt de se dire que on a besoin d'un endroit qu'on puisse imprimer finalement et mettre à notre image. Donc, c'est le seul finalement élément de cahier des charges qu'on avait un peu, c'est de se dire voilà, on veut qu'il y ait des travaux à faire et on veut que le lieu ait du potentiel, mais on veut pouvoir nous le révéler. Mais on n'avait pas de critères de surface Tu vois, on s'était même pas dit, on veut une vue, on n'en veut pas, on veut être en centre-ville ou autre. Moi, ce que je voulais, quand on est arrivé comme ça, c'était quand même avoir une certaine praticité au quotidien, de pouvoir aller acheter du pain à pied, d'avoir, à défaut d'une agence postale, peut-être un petit point courrier quand même à la mairie, et puis une épicerie. Voilà, c'était tout. Pas être tout le temps en voiture. Parce que c'est un peu aussi l'aspect... qu'on n'envisage pas forcément quand on part à la campagne, mais nous on habitait en plein centre-ville, on avait une voiture pour deux qui était quasiment tout le temps au garage quand on était à la maison. Quand tu vas vivre à la campagne, tu passes ton temps en voiture en fait, hein, si tu fais pas attention.
Oui, tout à fait. Oui, donc très ouvert, juste à la page blanche dans laquelle vous arrivez à vous projeter et qui est source de créativité, en fait.
Par contre, une fois qu'on a identifié ce lieu-là, la Côte d'Opale, pour développer notre activité, là, on a précisé le cahier des charges. C'est-à-dire que ce qui nous a fait pencher la balance sur une maison ou sur une autre, c'était de se dire, bon, ben, finalement, là, c'est quand même bien parce que on est en cœur de village, mais c'est une oasis. Là, c'est super parce qu'on n'est pas loin de la plage et il y a une piste cyclable, comparativement à d'autres maisons qui étaient géniales, mais où il fallait faire du vélo sur la départementale et on s'est dit, en fait, ça, pour des gens qui ne sont pas cyclistes, c'est juste inenvisageable. Donc, il y a des choses, après, si tu veux, qui se sont précisées. Quand on a eu plusieurs maisons à faire un choix entre plusieurs propriétés, là, on a un cahier des charges qui s'est affiné.
Ouais, vous avez fait les pour, les contre à chaque fois.
C'est ça.
Et justement, tu en as visité combien, en fait?
On a dû visiter, pas énorme, on a dû visiter peut-être 4 ou 5 maisons.
Ah oui.
Ouais. Après, donc, j'hésite très vite. Hein. Chaque fois qu'on a déménagé, on a visité 2-3 biens. En fait, on tergiverse pas.
Ah, ok, génial. Et vous avez une facilité à vous projeter et à vous dire, là, on va faire, je ne sais pas, tel déco, tel style, etc. Ça, c'est plutôt ta partie, peut-être.
Oui, moi, effectivement, de formation, et puis parce que j'ai fait ce métier pendant presque 20 ans, j'ai une facilité à me projeter dans l'espace et donc à imaginer un lieu et à le visualiser une fois les travaux achevés. Pour Jérémy, c'est plus compliqué, mais du coup, il y a des outils informatiques qui permettent, ou alors juste un bout de crayon, un bout de papier et un crayon qui permettent de se projeter. Voilà, donc ça pour Jérémy, ça, dès que je lui représente un peu l'espace, lui, il me dit banco.
Ouais. Est-ce que vous avez les mêmes goûts en termes de déco, de design, etc.?
Je pense que ça converge, en tout cas. Je sais pas si on a les mêmes goûts, mais finalement, ça finit par converger parce que ça fait 12 ans qu'on est ensemble, qu'on voyage aux mêmes endroits, qu'on fréquente les mêmes restaurants, les mêmes magasins. Et donc, on a des... je pense qu'on a des goûts qui sont similaires en termes de déco. Après, sans aucune prétention, je pense que peut-être que j'ai moins un peu d'avance sur lui par rapport à des choses que j'apprécie. Et peut-être que Jérémy, il a besoin de le voir 3-4 fois dans un magazine avant d'être convaincu que c'est joli.
Voilà. Ouais, je vois. Tu laisses traîner nonchalamment quelques pages par-ci, par-là. Ok, donc une fois que vous faites l'offre pour ce superbe moulin, vous aviez déjà une idée de l'enveloppe pour les travaux, c'était assez clair. Est-ce que vous aviez fait venir des artisans pour faire évaluer un petit peu ce qui vous attendait?
Alors ça c'est l'aspect positif de mon métier d'origine, hein, c'est que effectivement estimer l'enveloppe des travaux, ça je l'ai fait à la louche et on savait tout de suite à l'issue de la première ou la deuxième visite de la maison que il y avait X centaines de milliers d'euros à investir pour faire le projet de nos rêves. Donc ça on a réussi à calibrer le projet assez rapidement et sans trop de difficultés. Ça n'empêche qu'il y a toujours des surprises, même quand c'est du métier. Il y a des choses où on se dit, ça va pouvoir être fait dans 5, 10 ans. Et puis, tu te rends compte, en fait, passé le premier hiver, que non, ça peut pas attendre et qu'il faut le faire tout de suite. Donc, c'est plus, si tu veux, je pense que l'enveloppe budgétaire, en dehors de l'inflation, bien sûr, mais qu'on avait au départ, elle est plutôt correcte et encore aujourd'hui. Par contre, l'ordre dans lequel on fait les choses, lui, change.
Oui, tout à fait.
Et voilà. Parce que bien sûr, on n'avait pas le budget pour tout faire tout de suite.
Ouais, donc c'était ça. Le montage, est-ce qu'il nécessitait un emprunt? Est-ce que vous l'aviez fait? Quoi, s'il y a un emprunt, est-ce que vous l'avez fait à titre perso, à titre pro?
Alors en fait, on a acheté la maison à titre perso.
Ouais.
Initialement, on avait monté un dossier pour faire l'achat de la maison et une première vague de travaux. On a vu plusieurs banques. Je pense qu'on a consulté plus de banques que visité de maisons.
En fait. Oui, c'est ça.
Et ça a été beaucoup plus long de passer du temps avec les banquiers que de négocier les valeurs des biens.
Ah ouais.
Et donc au départ, on voulait acheter la maison et faire des travaux tout de suite. Et puis en fait, la seule banque qui nous a suivis, finalement, on nous a dit, moi, nous, on vous prête que pour la maison. On vous prête pas pour les travaux parce que vous comprenez, les timbres d'hôtes, c'est risqué. On ne sait pas si jamais il y a à nouveau un confinement. Ah, mais bon, oui, effectivement, là, les chiffres du tourisme sont bons, mais parce qu'il a fait beau, peut-être que l'année prochaine, il ne fera pas beau et qu'il n'y aura personne. Enfin, tu vois, ils ont toujours des bonnes raisons de pas te prêter, de pas te croire en ton projet. Donc, finalement, ils nous ont prêté de l'argent que pour acheter la maison. Et ils ont quand même été, là où ils ont été très honnêtes, c'est qu'ils nous ont dit, voilà, pour le moment, vous achetez la maison, vous y vivez quelques mois, vous travaillez votre projet, votre activité. Et puis on se revoit dans 6 mois et là on reparle d'un crédit travaux. Et donc on a pu au bout de 6 mois refaire un emprunt pour des travaux parce que de toute façon c'était indispensable. Il fallait refaire les toitures, il fallait changer le système de chauffage. Donc si on voulait pouvoir un jour développer l'activité, enfin, et ne serait-ce couvrir la maison d'hôte, il fallait que la banque nous prête.
D'accord.
Donc tout ça, toute cette première phase a été faite sur nos deniers perso et sur des emprunts perso. Et puis en fait, quand on a décidé de créer vraiment l'activité d'hébergement, là on a monté une société. Et donc maintenant, c'est une société qui porte les investissements.
D'accord, ok. Donc vous lancez les travaux 6 mois plus tard ou ça s'est peut-être même encore un peu décalé entre le moment où vous obtenez ce financement et le moment où peuvent
Bah, écoute,
attaquer?
on est arrivé dans la maison, c'était fin mars, je pense. Fin mars, et on a démarré des travaux à l'automne suivant. Donc si, c'est ça, 6 mois à peu près.
Ouais, voilà,
Ouais,
ouais.
6 mois, et on a démarré par les clôtures.
Et ça a été facile de trouver les artisans parce que du coup, vous connaissiez personne, je pense, sur place. Comment t'as fait pour faire un petit réseau?
Alors, il y a eu, on a consulté pas mal, on s'est fait recommander des entreprises, en fait, par des gens du coin et puis pas mal de bouche à oreille. Il y a des entreprises qu'on a trouvées assez facilement, et puis d'autres, effectivement, tu sens que c'est vraiment des métiers, des expertises qui sont en tension, parce que quand pour faire une salle de bain, tu dois consulter 17 plombiers, que tu n'en as que deux qui t'envoient un devis, et que celui avec lequel tu as signé le devis ne te prend jamais, tu te dis, bon. Voilà. Après, et pour d'autres lots, ça s'est très bien passé, c'est allé vite et fallait juste attendre qu'ils soient disponibles. Mais non, non, on a vite trouvé des gens de confiance quand même.
Et quelle échéance vous vous étiez donnée? Il fallait ouvrir à quelle période? Pour la saison estivale, du coup?
Ouais, c'est ça. En fait, il fallait qu'on ouvre pour le printemps. Alors, la première année, on a raté les vacances de Pâques, on a raté tous les ponts du mois de mai et on a ouvert à la fin du mois de mai. Donc, on a vécu un été.
Ok.
Et puis à l'automne, on a à nouveau fait quelques périodes de fermeture pour refaire des travaux qu'on n'avait pas eu le temps de faire la première année et puis pour lesquels il fallait gagner un petit peu de sous entre-temps. Et donc là, cet hiver, on a refait toute une vague d'investissements pour créer des nouveaux services, pour aménager des extérieurs. Voilà. Donc c'était pas des investissements aussi lourds que la première année. Pour autant, on a réinvesti tout ce qu'on a gagné.
Ouais, d'accord. Et votre partie privative, elle nécessitait aussi des travaux? Est-ce que ça faisait partie du lot sur le chantier aussi? Ou vous l'avez mis un peu de côté en vous disant, bon, ben, priorité à la chambre d'hôte et à l'activité?
Priorité à l'activité, et c'est surtout qu'en fait notre partie privative, à ce jour, en fait, elle n'existe quasiment pas. Parce que en fait, on déménage au fur et à mesure des travaux. Depuis qu'on est arrivé dans la maison, on a déménagé 3 fois au sein de la propriété. Parce qu'au fur et à mesure des rénovations, en fait, on bouge dans un espace qui n'est pas encore rénové. Donc, c'est vraiment priorité à l'activité professionnelle. Et on a une phase de développement qu'on espère pouvoir mener dans 2, 3, peut-être 4 ans. En fait, tout ça, c'est beaucoup d'argent en jeu. On espère aménager notre partie privative de manière définitive et de réintégrer la maison principale. Parce que au début, on vivait dans la maison, mais là, ces derniers mois, on est dans un bâtiment annexe.
Donc vous avez ouvert pour le printemps et sous le modèle chambre d'hôte avec les 4 chambres déjà, les 4 étaient rénovées,
Oui,
ok.
c'est ça.
Et à l'automne, vous avez démarré pour les 2 studios, c'est ça?
C'est ça, on a fait cet automne, cet hiver, deux studios. Alors, il y en a un qui est toujours qui n'est pas terminé.
Oui,
Parce que là, pour le coup, on fait 80% des travaux nous-mêmes dans ces studios-là, alors que dans la maison, on s'est fait beaucoup aider, pour les lots techniques notamment. Et là, on fait beaucoup nous-mêmes. Donc, il y a un des deux studios qui n'est pas prêt encore. Et on s'était dit, bon, bah, il sera prêt pour le mois de juin. Non, bah, finalement, il sera peut-être prêt en juillet. Non, bah, finalement, il sera prêt qu'à la rentrée. Et là, on ne sait plus.
Là, vous dites plus.
C'est ça.
On ne s'engage pas.
Exactement.
Non, non, mais après, il faut se ménager aussi. Et l'activité doit déjà prendre tellement de temps que rénover en plus à côté, non, non, c'est... ouais. Et alors, comment vous avez abordé cette commercialisation? Donc, vous êtes dans les travaux et autres. Est-ce que tu as commencé peut-être un compte Instagram ou à communiquer avec, je ne sais pas, une agence de presse, à réfléchir aux canaux sur lesquels tu voulais mettre les annonces? Comment ça s'est fait?
Donc, quand on a acquis la maison, il y avait effectivement ce projet de chambre d'hôte. Et bah, tous les investissements étaient pour aménager la maison. Et donc, toute la partie commercialisation, com, etc., c'était vraiment à la dernière minute de se dire on fera ce qui restera. Mais on a créé un compte Instagram assez vite quand on a eu la maison et qu'on a commencé à faire des aménagements, etc., pour inviter bah voilà, nos premiers followers à suivre les travaux de la maison et les évolutions. Et donc, on a commencé qu'avec un Instagram au début. Pour l'ouverture de la maison, on a quand même fait faire un site internet et on a pris des outils professionnels pour pouvoir gérer les réservations et les transactions.
Oui, j'ai vu, vous travaillez avec Amenities.
C'est ça, on travaille avec Amenities et à qui on a aussi confié la réalisation du site web.
Ouais, c'est qui est très réussi, je trouve. C'est vraiment chouette parce que je m'attendais à ce qu'on puisse moins le personnaliser et je trouve que vraiment, on ne se doute pas, à part quand on voit Amenities en bas de page, que ce n'est pas un site que vous avez fait faire ou que vous avez fait...
Bah en fait, ils ont des templates, hein, ouais. Donc c'est quand même des choses qui sont... plus ou moins figé, mais il y a une gamme de mise en page qui est assez variée et c'est surtout, moi j'ai quand même fait une direction artistique. Donc avant de leur confier sur internet, j'avais quand même pour le coup là fait tout un cahier des charges. J'avais déjà une mise en page idéale, une typo, etc. Et donc c'est eux qui ont cherché dans tous leurs templates la manière la plus efficace pour être fidèle à ma direction artistique.
Super.
Voilà. Donc, c'est aussi pour ça, peut-être qu'on a un site qui ne ressemble pas à un site tout fait, mais...
Et tu en es content?
Oui, on est très content.
Pour le site et pour le côté PMS aussi, dans la gestion des réseaux, ouais.
On est très content. Moi, ce que je leur reprocherais, c'est que le service client n'est pas facilement disponible. En fait, c'est beaucoup d'échanges par email. Et en fait, nous, on n'est pas dans notre ordinateur toute la journée, donc... quand il faut résoudre un problème et qu'en fait ça prend 4 jours parce que tu peux te connecter qu'une fois l'après-midi, c'est un peu pénible parce que tu n'arrives pas à les avoir au téléphone et ils ont un chat en ligne derrière lequel il y a personne en fait. Mais au-delà de ça, on est quand même super content de l'outil, ça fonctionne super bien, l'ergonomie est top. Voilà.
Et tu sais à peu près combien ça te coûte?
Alors c'est par palier, donc là comme on avait 4 chambres et maintenant 5. C'est le même prix parce que de 1 à 5 chambres, je crois que c'est 50€ hors taxe par mois, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, d'accord.
Et quand on va rajouter le deuxième studio, on va passer à 6 hébergements. Peut-être que ça va nous coûter entre 5 et 10€ de plus tous les mois.
Ok, d'accord. Et ça, ouais. Ça inclut le site internet ou c'était un supplément pour la création du site?
Alors à l'époque, c'était une opération, je pense, d'acquisition de nouveaux clients. Et donc le site internet était inclus.
Ah oui, trop bien.
Ouais. Ah bah ouais, ça aide.
Donc, ouais, de suite, tu fais le choix de trouver une solution de gestion avec ah oui. Amenities, tu fais le oui. site, vous créez l'Instagram. C'est toi qui l'anime ou c'est Jérémy?
Non, c'est moi qui anime les réseaux sociaux. Et pour l'instant, on fait aussi, on crée tout notre contenu. Donc, on fait les photos.
Ah, super!
Voilà, donc, vraiment, la première année, on a fait avec zéro budget. Hein, toute ouais. la création graphique, notre logo, notre papeterie. Toutes les mises en page des différentes instructions qu'il y a dans la maison, c'est nous. On le fait nous-mêmes. Et là, par contre, cette année, on investit un peu en communication. Donc là, on va faire des photos pro.
D'accord.
D'ailleurs, c'est la semaine prochaine que se déroule le reportage photo.
C'est avec quel photographe vous avez choisi ?
On travaille avec le duo Papi et Mamie.
Ah, j'adore. Ouais.
Qui est plus connu sous le nom de. C'est Lisa Lou, en fait, avec son compte Mamie Boud, qui est un peu plus célèbre.
Trop bien.
En fait, on s'est rencontrés dans le cadre de l'émission Archibo sur Paris Première.
Oui. Ouais.
Parce que Lisa Lou nous suivait depuis un petit moment et donc elle a proposé notre maison pour l'émission de cette année, pour cette nouvelle saison. Et donc il y a eu un tournage au mois d'août l'année dernière. On est resté en contact et puis comme ça matche bien, on a très envie de travailler avec eux.
Voilà. Trop chouette.
Et cette année, on investit également, alors à la rentrée, on investit dans des RP. Bon, on s'adjoint les services d'une agence de relations presse.
Ouais.
On va faire un test. On n'a jamais fait ça avant et donc là, on démarre une campagne de relations presse en septembre.
Super. Tu as choisi déjà l'agence ?
Oui.
Tu sais, tu peux nous dire ou tu préfères pour l'instant
Non, je peux le dire. On va travailler avec Gazette RP.
D'accord, ok.
Qui est une agence parisienne. Et en fait, on était contents parce que... on va faire un test, on va voir ce que ça donne, mais on est contents d'être la seule maison d'hôtes en fait dans leur portefeuille de clients.
Ah d'accord.
Moi je trouve ça bien en fait de pas travailler avec des gens qui font que des maisons d'hôtes pour pas être en concurrence avec d'autres clients et plutôt travailler sur des synergies avec les autres marques qui sont représentées plutôt que d'être en concurrence avec d'autres maisons d'hôtes qui seraient représentées par les mêmes personnes.
D'accord, super. Et au niveau des OTA, des sites sur lesquels tu es présent, vous avez fait quoi ? Est-ce que tu es sur Airbnb, Booking, lesquels tu as choisi ?
Alors en fait, sur les conseils d'Amenities, au départ, ils nous ont dit il ne faut pas être sur plus de 2 ou 3 OTA, sinon on vous voit partout, etc. Donc on a au départ, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas au départ on était que sur Booking et Airbnb. Et puis en fait on s'est très très rapidement aperçu que Airbnb ne fonctionnait pas du tout pour nous. On avait mais zéro demande. Alors est-ce que c'est parce que la formule chambre d'hôte se prête pas à Airbnb, j'en sais rien, mais en tout cas on avait zéro retour. Donc, on a désactivé les annonces Airbnb et on a été pendant toute la première saison uniquement sur Booking et sur notre site internet en direct, hein, bien sûr. Mais le seul hôtel avec lequel on travaillait, c'était Booking. Et ça a très bien marché la première année. On avait en plus de ça des plateformes de sélection de maisons d'hôtes avec lesquelles on travaillait. Donc, on était sur AlléHopA, on est sur NHK. On était fiers parce que c'est quand même des sites qui sélectionnent des jolies adresses. Donc ça, on continue de travailler avec eux. Et cette année, avec l'ouverture du studio qui fonctionne plus comme un gîte indépendant, on a retenté Airbnb. Et puis en fait, ça marche pas non plus.
Ah ouais, même avec les nouveau... studios, ça marche pas. Ok.
Non, je pense qu'en fait, je sais pas pourquoi, j'ai pas d'explication. Mais du coup, plutôt que de devoir en plus actualiser et mettre à jour une plateforme supplémentaire qui ne rapportait pas de visites, j'ai désactivé l'annonce Airbnb et donc le studio est aussi sur Booking. Par contre, cette année, on a ajouté une plateforme qui s'appelle Gringo.
Oui.
Pour l'instant, on n'a pas trop de retours. Et j'avais testé il y a plusieurs mois une autre plateforme qui avait aussi un positionnement éco-responsable comme ça, qui fonctionnait pas non plus.
Wego Greener,
ouais,
peut-être.
Wego Greener. Ouais.
Et là, pour l'instant, les deux, ça.
Bah, Wego Greener, j'ai arrêté parce qu'en fait, c'est pas gentil, mais l'outil de recherche, il est pas du tout performant. En fait, quand tu tapes une commune qui est à 5 minutes de chez nous, tu ne trouves pas. Donc, Si pour nous trouver, il faut taper notre nom et notre adresse, c'est pas un moteur de recherche. Voilà.
Oui.
Donc voilà. Alors, j'ai signalé plusieurs fois le problème. Il y a quelques améliorations qui ont été apportées, mais c'est toujours pas performant. Donc, on y reviendra quand ça fonctionnera. Voilà. Du coup, on est sur Gringo et ça marche pas au Temas non plus.
Ok. Faut peut-être laisser un peu
oui,
de temps.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Ça. Et par contre, cette année, un peu sur le modèle de NHK et AlléHop, on est sur des sites, enfin des Insta et des sites de sélection de jolies adresses, mais en Allemagne et aux Pays-Bas.
Ah, d'accord.
Voilà. Et donc, ça nous amène une clientèle, enfin, ça diversifie notre clientèle. On a beaucoup de Belges, beaucoup de Hollandais, beaucoup d'Allemands. Et cette année, nous avons des Suisses également.
Génial, super.
Ça, c'est plutôt bien parce que, en fait, comme tu vois, par rapport à nous, la Côte d'Opale, c'est quand même une destination qui est très prisée par la clientèle belge. Donc, on a eu dès la première année beaucoup de Belges, c'est 50% de notre clientèle. Et d'aller comme ça, sur, de faire le choix d'une plateforme en Allemagne, ça nous amène des clients qui viennent d'Allemagne, forcément, et qui, comme ils sont un peu plus loin, bah, ça fait des plus longs séjours.
Et oui, ils rentabilisent davantage. Oui. Donc, ouais. Ah, super.
Donc, ça, c'est plutôt chouette.
Ah, ouais, ouais, très chouette. Et d'ailleurs, c'est quoi à peu près le profil type de la clientèle? Quelle moyenne d'âge et quelle nationalité? Donc, majorité plutôt belge ou il y a quand même encore la répartition plutôt française?
On a 50% de clientèle belge. Et dans les 50% qui restent, c'est des Français, des Allemands, des Anglais, des Luxembourgeois, des Suisses. Dans notre clientèle française, c'est beaucoup de citadins, région parisienne, métropole lilloise, bon, un peu d'ailleurs aussi, mais je veux dire, c'est pas significatif. Par contre, on n'a pas de profil type. On a vraiment des clients de 25 à 80 ans.
Ah ouais, d'accord, super. Mmh. Et j'avais vu sur le site une mention à partir de 14 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Vous n'avez pas forcément volonté à accueillir de jeunes enfants, je pense, mais parce que la maison s'y prête pas, parce que c'est pas la clientèle avec laquelle vous seriez le plus à l'aise?
En fait, ça, c'est un sujet sur lequel on tâtonne beaucoup. Parce que nous, par principe, quand on a imaginé la maison, on voulait un espace qui serait nuit, sans pour autant configurer la maison pour les enfants. Hein. Donc, on a quand même le goût en termes de décoration, d'aménagement. Donc, on a fait une maison qui nous ressemblait et on n'a pas fait une maison pour des enfants. Mais on voulait quand même mettre un espace qui puisse accueillir toutes les formes de famille, les couples comme les parents avec enfants. Et puis en fait on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça. Dans la formule maison d'hôtes, par exemple, l'été dernier, on a souvent accueilli des parents avec des jeunes enfants, voire des bébés. Souvent c'est les parents qui venaient avec des bébés qui eux passaient pas un super séjour parce qu'ils avaient peur de déranger. Ils étaient pas très à l'aise. Tu vois, se dire le matin, mince, on peut pas attendre 8 heures, donc on descend discrètement à 7 heures du mat pour demander si on peut chauffer un biberon, se dire le soir, ben on va pour resto, est-ce que je peux réchauffer un petit pot. Enfin, en tout cas, la maison d'hôte, elle n'était pas équipée pour accueillir des bébés. On s'est rendu compte, avec l'expérience, que c'était pas adapté, en tout cas. Quand on avait des parents qui venaient des enfants un peu plus âgés, tu vois, qui étaient trop grands pour rentrer dans des lits parapluies, comme dans les chambres, on peut pas mettre de lit d'appoint. Parfois, on mettait un matelas, mais on n'était pas satisfait de l'image que ça renvoyait. Enfin, voilà. Donc, du coup, il fallait prendre deux chambres. Sauf que quand tu as des enfants qui ont entre 2 et 6 ans, dans une maison qu'ils ne connaissent pas, ben, en fait, ils ne dorment pas tout seuls dans la chambre d'à côté. Donc, les parents faisaient chambre à part pour dormir chacun avec un enfant. Donc, voilà, l'expérience, elle n'était pas satisfaisante ni pour nous, ni pour nos clients. En tout cas, de notre point de vue, on n'était pas content de l'image que ça renvoyait de la maison. On a eu, alors c'est rare, hein, mais on a eu quelques retours de clients qui nous ont dit « Ah, vous devriez être adulte en nuit, ce serait plus calme, en tout cas nous on préférerait. » Et donc c'est comme ça aussi qu'on a imaginé l'ouverture des studios, des grandes boudeuses, parce qu'on s'est dit « Il faut absolument qu'on trouve une formule pour pouvoir accueillir des familles. » Parce que on voulait pas être un établissement adulte en nuit.
Ouais.
Et donc on s'est dit « Bon, alors les parents qui vont venir avec des nourrissons, des bébés ou des jeunes enfants, ça va être super le studio parce qu'on va leur mettre un petit frigo, on va leur mettre un micro-ondes, comme ça
ils seront
plus autonomes. Comme c'est à l'écart de la maison, ils n'auront pas peur de faire du bruit et de déranger les clients. Donc on s'est dit bah top. Mais comme on voulait pas, comme c'est, ça reste que des studios, on s'est dit bon, on va mettre des lits d'appoint, mais on considère que quand un enfant est ado, il peut être dans la maison principale avec ses parents en formule chambre d'hôte. Donc ça, c'est la formule qu'on teste cette année. on n'est pas encore convaincu d'avoir trouvé la bonne solution. Parce que y a une part de frustration quand tu es dans le studio et que tu te dis bah mince, en fait j'ai pas accès à la maison alors que la maison est sympa. Bon, on va voir. Là-dessus, on sait pas. On n'arrive pas à se forger une conviction définitive sur le fait d'accueillir des enfants ou pas dans la maison.
Ouais, je comprends. Ah ben ça, je pense que ça se fera naturellement aussi. Tu verras peut-être finalement au fil du temps avec les clients selon leurs besoins, leurs demandes. Mais je pense qu'effectivement, c'est une très bonne astuce et ça répond vraiment bien aux besoins, le côté plus indépendant et autonome dans les studios. Mmh. Parce que c'est vrai, c'est ça aussi le problème. Mais quel que soit le profil clientèle, c'est qu'elles se... elles ne matchent pas entre elles et que dans une maison d'autres, ça puisse embêter les uns ou les autres, même sans parler que des enfants, hein, et trouver le bon compromis pour que tout le monde passe le meilleur séjour possible. Ouais.
Et après, il y a aussi un autre sujet d'importance sur l'accueil des enfants, c'est qu'on a quand même un immense plan d'eau,
et oui.
Une rivière, d'autres petits étangs, etc. sur la propriété, et que c'est un risque non négligeable. C'est déjà arrivé qu'un enfant tombe dans l'eau. Et en fait, c'est quand même une source de stress pour nous. Et on se dit, ça, on n'a pas de solution. On est en réflexion, on ne sait pas. On ne sait pas si on doit être beaucoup plus fermé sur le sujet ou si on doit continuer à chercher des solutions.
Moi, je pense que vous êtes déjà sur des super pistes. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton quotidien et peut-être nous décrire une journée type ?
Alors, la journée type de la maison d'hôte, je pense qu'elle est, très liée au fait d'avoir ou non la capacité d'avoir de l'aide. Là, à ce stade, on fait tout à deux. On n'a aucune aide extérieure. Donc, on a des journées qui sont plutôt très chargées et très longues. On a une journée qui commence, on se réveille souvent plutôt à 6 heures du matin. On a une mise en place du petit déjeuner qu'on a choisi de faire en formule buffet pour la maison d'hôte et panier livré pour les studios. Donc en fait, on a la mise en place du petit déjeuner de 6 à 7, de 6 à 8, pardon. Entre 8h et 10h, il y a le service du petit déjeuner, on va livrer des paniers dans les studios indépendants.
T'as des préparations minutes ou c'est plus pour justement avoir le temps de discuter aussi avec tes hôtes et partager avec eux leur programme de la journée, leur faire quelques recommandations?
Alors, il y a les deux. En fait, il y a des préparations minutes parce qu'on propose des œufs frais tous les jours. Donc, il y a la cuisson des œufs à faire à la minute. On fait les cafés, toutes les boissons chaudes. Donc là, il y a quelques préparations minutes. Et effectivement, là où la journée type varie, c'est selon l'interaction que les clients souhaitent avoir ou pas avec nous, que nos hôtes veulent avoir ou pas avec nous. Soit il n'y en a qu'un seul qui reste au service, soit les deux sont disponibles. Donc quand les deux sont disponibles, effectivement, il y en a plus un qui est là pour vérifier que tout va bien, discuter avec les uns et les autres, parler du programme de la journée, faire des recommandations. Et puis l'autre s'active dans l'office pour... les préparations minutes, commencer à débarrasser, préparer le petit déjeuner du lendemain, parce qu'on fait tous les jours il y a un gâteau, donc on refait des yaourts, on refait du granola, on refait un dessert pour le lendemain matin. Quand une seule personne suffit, l'autre pendant ce temps-là, il va faire de la lessive, du repassage, refaire le lit dans notre partie privée. Donc on est toujours bien occupé le matin. Ça, c'est jusqu'à 10 heures. Après, de 10 à 12, on débarrasse, on remet en place la maison, toutes les parties communes et la partie préparation du petit-déj, la cuisine, etc. Donc tout ça, on a jusqu'à midi pour tout remettre d'équerre. Et puis ensuite, il faut faire les chambres. Donc selon qu'on a des recouches ou des nouveaux arrivants, ça prend plus ou moins de temps. Donc, quand tu as des journées où tu as 5 arrivées, 5 départs, enfin 5 départs, 5 arrivées, tu as 4 heures pour tout refaire. Quand c'est des semaines où les gens restent 2-3 jours, effectivement, ça nous permet, au lieu de faire du ménage, on fait du jardin.
Oui, oui, parce que tu ne repasses pas dans la chambre s'ils ont plusieurs nuitées, tu ne changes pas.
On le fait à la demande.
Voilà, si vraiment ils ont un besoin, mais sinon, OK.
Ouais.
Et combien de temps tu mets par chambre ? quand tu l'as fait à blanc?
Ben ça va de... Alors, c'est de plus en plus rapide, parce qu'on a des automatismes. Alors ça, c'est vraiment la partie de Jérémy, mais lui, il met entre 45 minutes et une heure au moins par chambre. Ce qui nous rend dingue, parce que quand on rencontre des gérants d'établissements hôteliers qui nous expliquent que les femmes de chambre ont 15 minutes par chambre, on se dit, c'est juste incroyable. Je ne sais pas comment font ces personnes pour rester en vie. C'est un métier atroce.
Non, mais c'est ça. Elles ont 18 minutes par chambre et elles en font parfois 12, 15 par jour. C'est dingue.
C'est ça. C'est... En fait, la maison, pour la remettre en état, il faut 4 heures dans la journée entièrement. Donc voilà. Et puis après, ça ajoute pour celui qui ne fait pas le ménage, effectivement, toute la partie buanderie. Hein, parce qu'on a fait le choix d'avoir du linge de maison en lin. Et donc ça, on ne peut pas le confier à des blanchisseries. On n'a pas fait appel non plus à un service de blanchisserie, de location de draps, etc. Donc tout ça, ça prend du temps. Les machines, faire sécher, repasser ce qui doit être repassé. Il y a les courses. On fait beaucoup de produits frais et beaucoup de maisons. Donc on a quand même pas mal de... Et comme on fait du circuit court, ça prend du temps, les courses, parce qu'on doit aller chez les uns et chez les autres. On ne trouve pas tout au même endroit. Et en fait, ce qu'on essaye de faire en général, c'est comme on fait les check-in à partir de 16 heures, on fait en sorte d'être disponible à partir de 16 heures. Et donc, en général, y en a un qui fait en sorte d'avoir des tâches qui peuvent être facilement interrompues parce qu'il doit être disponible de 16 heures jusqu'au soir pour accueillir les clients. Et cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une pièce dans laquelle on peut stocker les bagages et où il y a un cabinet de toilette qui permet de, quand il y a la demande, d'arriver un peu plus tôt, c'est possible.
Ah, super.
On donne pas accès aux chambres, mais on peut déposer les bagages et puis on peut aller se rafraîchir un peu.
Ah, c'est génial. Parce que ça arrive souvent qu'ils arrivent avant l'heure?
Nous, on fait en sorte que non, parce que on dit que c'est à partir de 16 heures et comme on est assez transparent sur le fait qu'on fait tout nous-mêmes et qu'il nous faut du temps pour mettre en place, en général, c'est plutôt respecté. Mais parfois, tu as des gens qui viennent en train et leur train arrive à telle heure et que... Voilà, donc ça arrive. C'est rare, mais ça arrive.
Et alors, vous ne faites pas table d'hôte, mais tu mets un garde-manger en libre-service. Là aussi, est-ce que ça a été compliqué ou que ça t'a pris du temps de trouver les professionnels avec lesquels faire peut-être ce partenariat pour valoriser leurs produits, leur production et,
On a testé la table d'hôte à l'ouverture.
Ah, d'accord.
Une fois ou deux, en fait, comme ça, vraiment en mode test. Et les clients étaient prévenus que c'était un test. Et on a adoré faire ça. C'était un super moment à passer avec les clients, de partager le repas avec eux. Par contre, comme on était qu'à deux, on s'est dit que c'était pas viable parce que ça faisait du 6h du matin jusqu'à 1h, voire 1h30. Donc c'était juste pas possible. Donc on s'est dit qu'on pouvait plus le faire pour le moment. Et donc on a cherché une alternative. Et l'alternative, ça a été effectivement de se dire que ce qui servait de cuisine dans la maison devait être transformé. Et on y a fait une pièce dans laquelle on peut pas cuisiner parce qu'on n'a plus de plaque de cuisson. Mais par contre, il y a une armoire réfrigérée, il y a des étagères avec des produits en libre-service, il y a de quoi réchauffer les plats cuisinés. Et ça fonctionne. Enfin, on trouve que c'est une solution qui est sympa, parce qu'en plus, c'est un peu en mode honesty bar. Donc,
oui, c'est ça, c'est sur voilà, la
chacun
confiance.
Se, c'est ça. Chacun se sert et puis on fait un petit point à la fin du séjour. Voilà, et ça se passe plutôt bien. Et ce qu'on a fait cette année, c'est que pour que ça soit pas déceptif pour nos hôtes, on a augmenté l'offre, on a diversifié. Donc on a effectivement des choses qui sont de la longue conservation. Et donc là, effectivement, on a testé différentes marques, des choses végétales, des choses carnées, parce qu'il fallait absolument qu'on ait des choses qu'on puisse en tout cas assuré en termes de délai de consommation, donc il fallait quand même de la longue conservation. Et on a ajouté une carte traiteur, et donc il y a des choses qu'on prépare à la demande. Alors on fait des planches de fromage, on peut commander des plats artisanaux, mais ça, il faut qu'on sache un peu à l'avance.
D'accord. Et justement, ce que tu revends dans le garde-manger, est-ce que toi, on t'impose un certain minimum, quoi, une quantité minimum? Est-ce que tu négocies un petit peu le prix auquel toi, tu l'achètes? Et après, est-ce que tu peux t'appliquer une petite marge?
Alors, il y a de tout. Alors, nous, le principe du garde-manger, c'est que ça soit vraiment un service rendu au client. Donc, en fait, on fait une marge, mais qui est minime,
ouais,
qui nous permet juste, en fait, de se dire que quand on... Parce que ça nous fait quand même une pièce en plus à nettoyer,
ouais,
plusieurs fois dans la journée. Derrière, il y a de la vaisselle à faire, il faut gérer les déchets, il faut faire la mise en place, aller chercher des produits. Donc, on fait une mini marge, mais juste pour rendre viable le fait de proposer le service.
D'accord.
Donc, faut pas qu'on perde de l'argent en mettant en place un nouveau service comme celui-ci. Donc, la marge, elle est vraiment très faible. C'est-à-dire que, tu vois, quand on a des conserves de choses à tartiner ou de plats à réchauffer, les produits que tu consommes sur place chez nous, c'est le même prix que si tu les achètes dans un magasin et que tu dois les manger chez toi. Toi, on ne surmarge pas parce que les gens sont dans un cadre hôtelier et que c'est sympa et que... Donc, non, on fait vraiment pas ça pour gagner de l'argent. C'est vraiment un service, c'est du complément. On marge un peu plus sur l'alcool, mais pas des masses.
Oui, j'ai vu que vous aviez aussi le droit de bouchon, donc
oui,
c'est chouette. Ouais. Et ce garde-manger, ça marche bien? Est-ce que ça répond vraiment à une attente de la clientèle?
Oui, ça répond vraiment à une attente de la clientèle qui, parfois, surtout quand c'est des longs séjours, a pas envie d'aller au restaurant tout le temps. Parce qu'il faut quand même, ici, on est sur notre commune, il n'y a pas de restauration. Donc, il faut reprendre la voiture pour aller au restaurant. Ça, déjà, ça répond à un besoin qui n'est pas toujours devoir sortir au restaurant. Ça répond bien aussi à une clientèle qui, parfois, vient en train et n'a pas de véhicule sur place et n'a pas envie de passer son temps dans les taxis. Et ça correspond aussi très bien à des gens qui vont arriver tard un vendredi soir, qui n'ont pas envie de ressortir au restaurant et qui vont être contents de trouver quelque chose à grignoter avant d'aller se coucher. Donc, l'offre garde-manger a vraiment trouvé son public. Ouais.
Ah, c'est super.
Et puis, cette année, ça marche d'autant mieux que, comme on a créé des nouveaux aménagements extérieurs, on a aussi maintenant à la maison des gens qui, peut-être l'année dernière, seraient allés au restaurant et en fait maintenant ont envie de chiller sur place. Donc ça, on est content, et ça, on trouve que c'est vraiment une réussite parce que on se dit que l'endroit devient une destination à part entière. C'est pas juste la fonction de trouver un hébergement quand on vient visiter le bouquet, voilà.
Et vous avez aussi la micro-boutique, où là c'est plutôt des articles de déco.
Alors l'idée de la micro-boutique, c'était vraiment de prolonger l'expérience de la maison, et donc on y trouve des objets qui sont utilisés pendant le séjour. Donc en fait, le savon qui est mis à disposition dans les chambres, les verres et les carafes qui sont utilisés au service du petit déjeuner, des éléments de déco. Tu vois, dans la maison, on a un peu partout des vases chinés avec des fleurs séchées du jardin, et donc on les peut les retrouver aussi dans la boutique. Des objets, des marques de déco qu'on aime bien, qu'on a choisi pour équiper certaines chambres, on les trouve aussi dans la micro-boutique. Donc oui, c'est ça. C'est vraiment une sélection d'objets très très courte, mais qui permettent de prolonger. Et puis c'est surtout ça crée de l'interaction, parce que comme on y vend aussi des objets parfois qui sont fabriqués localement, ça permet effectivement de créer aussi un échange là-dessus, sur la provenance du miel qu'on sert au petit déjeuner, sur la vaisselle qu'on utilise, etc. Ouais.
Ah, c'est trop chouette. J'ai vu que vous mettiez à disposition des vélos. Est-ce que ça, vous le faites à titre gratuit? Il me semble que c'est inclus dans la...
C'est ça.
Ouais.
C'est...
Et t'as jamais eu de problème? Ça vous demande pas trop de travail?
Attends, je cherche quelque chose en bois à toucher pendant que je te réponds. Non, pour l'instant, ça n'a pas créé de problème. Non, alors c'est sûr que c'est toujours plus facile quand on a un vélo crevé et que la personne qui l'a emprunté nous le dit tout de suite que le vélo est crevé. Donc voilà, là ça facilite. Parfois les gens sont un peu gênés, ils n'osent pas dire que le vélo est abîmé, donc on le découvre après. Mais voilà, c'est pour l'instant la réponse est plutôt positive. C'est tout nouveau, hein, c'est ce qu'on a mis en place là cette saison, et c'est effectivement inclus dans le prix de la chambre. De la même manière que là, pour l'été, on va fournir des draps de plage. Ça, c'est des choses qui sont vraiment de l'ordre du service, mais du service offert.
D'accord. Et pour les vélos, est-ce que c'est un petit investissement que vous avez fait ou tu as un partenariat avec un loueur local ?
Non, ce sont des vélos qu'on a acquis.
Que tu as acheté,
ouais. Ouais, donc c'est de l'investissement pour le coup. Par contre, voilà, on a pris, on a limité, c'est-à-dire qu'on a pris un seul modèle de vélo qui est le même pour tout le monde. On a pris des vélos qui sont faciles à entretenir. C'est-à-dire que, bon, parce que on n'est pas en ville, on a quand même pris des VTC. Mais on a pris des VTC avec un monoplateau, comme ça il y a moins de risque que ça déraille, c'est plus facile de changer les roues. Et par contre, voilà, quand on a des clients qui veulent des vélos avec assistance électrique, on les dirige vers des loueurs à proximité. Et puis finalement, tu vois, ce service de vélo, ça nous a permis de... pour pouvoir proposer ce service, on a aménagé un ancien garage qui abrite ces vélos. Qui est tout joli, bien décoré, tout propre. Il y a une pompe, il y a un banc pour se changer. Voilà. Et donc, ça permet aussi aux clients qui viennent avec leur vélo de laisser leur vélo en sécurité.
Tout à fait. Ouais.
Donc, c'est un service un peu double parce que c'est à la fois un service qu'on rend aux gens qui viennent avec leur propre vélo, s'ils ont un endroit pour les entreposer.
Et pour dépanner, si ils n'ont pas...
Exactement. Ouais, super. Et du coup, on y a aménagé une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il y a des boules de pétanque, il y a des kits de molki, il y a des bottes qu'on prête.
Oui, j'ai vu le bar à bottes. J'adore. C'est, c'est génial. Et qu'est-ce que je m'étais noté en dernier? Oui, et il y a une borne de recharge aussi pour les voitures électriques.
Oui, ça aussi, c'est un nouveau service de cette année. Alors, c'est un service qu'on ne peut pas offrir.
Ouais, oui, justement, c'est comment tu le fais fonctionner? Est-ce que tu as un compteur et tu factures le temps de charge?
Oui, alors en fait, nous, du coup, ce n'est pas nous qui gérons ça. En fait, le client a une carte et il paye sa consommation sur la borne.
Ah, d'accord. Tu as travaillé avec quelle enseigne, quelle marque?
Alors, la borne a été installée par Ma Borne Auto.
Ma Borne Auto. Et tu as bénéficié de l'aide
Oui, mais Avenir, c'est ridicule.
Ah oui,
enfin,
ah.
C'est pas une aide, hein, c'est une subvention. Quoi.
Ah, d'accord. Donc. Je croyais que c'était quand même assez intéressant. Non, c'est pas...
Non, en fait, c'est intéressant si tu décides d'avoir une borne publique. Dans ce cas-là, tu apparais sur les cartes de points de recharge. Mais nous, on craignait un peu d'avoir un flux continu de voitures dans la cour de la maison. Et parce que les bornes les plus proches sont relativement loin et donc on voulait pas se transformer en station de recharge.
Ben oui. Et ça t'a coûté combien ?
Ça nous a coûté cher, on en a pour plus de 3000 euros d'investissement.
Ah ouais. Et c'est une borne, quoi, c'est une charge rapide ou une charge
Oui, c'est une borne, c'est une borne effectivement rapide. Avec recharge rapide, avec un joli design. Voilà, on a voulu faire ça. Assez sympa, bien. Ça vient. Et puis c'est un investissement pour plus tard. Voilà, on aurait peut-être pu attendre encore un an ou deux avant de la proposer, mais on voulait pas être suiveur là-dessus. Donc on s'est dit voilà, on l'installe maintenant. De toute façon, il y a de la demande. On a des clients qui ne réservent que parce qu'il y a la borne.
Ah, c'est vrai, tu le perçois déjà que.
Ah oui.
Ah, génial. Oui. Donc ce sera vite rentabilisé finalement. Quand
même. Bah, ou pas, mais en tout cas, c'est.
C'est un vrai avantage concurrentiel.
C'est
bien,
c'est ça.
Ouais. Ouais. Ah, trop chouette. Donc tu nous l'as dit, le linge, c'est vous qui vous en occupez. Est-ce que vous êtes équipé de grosses machines ou est-ce que tu as. 3 machines, 8 kilos.
Comment en fait, on a toujours notre bonne vieille machine qu'on avait nous dans notre appartement et qui, je croise les doigts, pour l'instant survit. Voilà, pareil pour le sèche-linge, parce qu'ici on peut pas s'assurer de faire sécher le linge dehors tout le temps.
D'accord.
Voilà, et puis j'ai des parents qui ont déménagé, qui ont revendu une maison, donc j'ai récupéré des machines. Voilà, donc on tourne avec un parc de machines qui a vécu, qui a plus d'années avant que ce qui reste, mais on sait que c'est un investissement qu'il faudra faire plus tard. Pour l'instant, ça va bien comme ça. Alors oui, c'est des petites capacités, ça tourne tout le temps, donc ça consomme pas mal. Mais voilà, on tenait à proposer du lin. Donc, on sait que c'est la contrainte qui allait avec ça.
D'accord. Et tu t'es équipé chez qui?
Alors, on a plusieurs marques. On a un panaché de AMPM et de Zara Home.
Et t'es content? C'est, ouais. La qualité est là?
On est content du rapport qualité-prix, du fait de l'usage intensif qu'on en fait.
C'est ça.
En fait, on a hésité au début. Hein, on se dit peut-être qu'il faudrait investir dans des choses plus qualitatives, mais je ne sais pas si ça résisterait plus longtemps. Enfin, voilà, c'est un sujet. Alors, on est beaucoup sollicité et là, il y a une marque, hein, qui nous a fait une proposition avec laquelle je pense qu'on renouvellera quand il faudra avec eux, et donc on changera effectivement de fournisseur. Mais oui, c'est un budget conséquent.
Oui, complètement. Surtout sur du lin en plus, oui. Effectivement. Et vous êtes parti sur combien de jeux par chambre?
On en a trois.
Trois jeux par chambre, ok. Oui. Et en termes de literie, j'ai vu que vous étiez des matelas et des oreillers en laine. Oui. Vous êtes équipé auprès de qui?
Alors en fait, effectivement, quand on a la maison, donc ça a été une maison de famille pendant très longtemps. Et nous, on trouvait cette histoire sympa de se dire qu'on allait aussi en faire une maison de famille, qu'on allait créer, nous, de toutes pièces. On a nommé les chambres des prénoms de nos grands-mères. Et j'avais très envie de me dire que dans ces chambres, on allait retrouver les lits qu'il y avait chez nos grands-mères. Donc, ces lits capitonnés en laine de mouton avec le coutil rayé dessus. Et on a cherché un fabricant français et artisanal, en fait, de matelas en laine. Et donc, on a travaillé avec un couple qui est dans l'Aveyron, qui, pareil, a changé de vie il y a quelques années, a quitté la ville pour acheter cette maison au cœur de l'Aveyron, et changer de vie et se mettre à fabriquer des matelas et des oreillers en laine. Donc, ils font tout à la main. C'est une toute petite équipe. Ils ont la chance d'être dans un ancien moulin également, et donc comme il y a une rivière qui passe juste à côté, toute la laine est lavée à l'eau de la rivière, et donc il n'y a aucun produit chimique qui rentre dans le process de fabrication, et c'est un confort exceptionnel.
Trop chouette. Est-ce qu'ils ont tu sais s'ils ont un site internet ou on peut les trouver?
Oui, ils ont un site internet, ça s'appelle Au fil de laine,
et tu as des, j'imagine, des très bons retours de la clientèle sur ce confort.
Oui. Alors, nos hôtes sont assez interrogatifs au début. Il y en a pour lesquels ça évoque des souvenirs incroyables, de dire, mais oui, effectivement, il y avait ça chez ma grand-mère. Oh là là, ça fait des années que j'ai pas dormi dans un lit comme ça. Et puis, il y a des gens qui sont un peu dubitatifs, de se dire, oula, il y a des capitons, ça va pas être très confortable. Et puis en général, au réveil, le lendemain, tout le monde est convaincu.
Oui, j'en doute pas.
C'est plus difficile, par contre, sur les couettes, par exemple, parce qu'on a des couettes en duvet. Là, par contre, on rencontre parfois des gens qui ont des allergies ou qui trouvent que ça fait du bruit, par exemple, tu vois, ou que c'est trop lourd.
Ah oui.
Alors que sur les matelas en laine, on n'a aucun retour.
Et ça, c'est eux aussi qui le font?
Non, alors on n'a pas pris les couettes en laine parce que nous, on trouve ça trop lourd. Donc, on a pris des couettes en duvet et c'est des couettes du commerce.
Et les articles de toilette, là, tu as fait le choix de quelle marque aussi? Peut-être que, déjà, est-ce que c'est du savon solide, des produits liquides?
Alors, depuis qu'on a ouvert et jusqu'à aujourd'hui encore, on travaille avec la marque Marius Fabre. Qui est une entreprise patrimoniale et familiale, et ça nous tenait vraiment à cœur de que le savon de Marseille continue chez eux à travailler comme il a toujours été, donc c'est quand même une fabrication ancestrale, on va dire.
Ouais, ouais.
Et donc on était très contents de travailler avec ces produits là et par contre pour les chambres on a choisi la version liquide du savon de Marseille qui puisse faire corps et cheveux. Et donc ça, c'est ce qu'on fournit dans les chambres. Et on travaille avec Marius Fabre parce que en fait, ça nous permet d'acheter en vrac des grandes quantités parce que tout l'entretien de la maison se fait à partir de ces produits. On fabrique notre lessive, notre liquide vaisselle, l'entretien, enfin les produits, voilà ce qu'on utilise pour nettoyer les sols, le carrelage, les sols de bain, etc. tout se fait à partir des produits Marius Fabre, donc soit savon de Marseille, soit savon noir.
Trop bien. Donc tu reçois toi des bidons, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Excellent. Ah, mais c'est chouette. Et ça, c'était important pour vous de travailler avec, ou en tout cas de développer l'activité dans une démarche écologique aussi?
Oui, alors, bon, il y a plusieurs points sur lesquels, en fait, on prête beaucoup d'attention. Il y a le fait de travailler en circuit court, et donc d'acheter en direct auprès des fabricants, et si possible, c'est des gens qu'on connaît, qu'on rencontre et qu'on côtoie. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, au moins, on achète en direct, sans intermédiaire. On tient à ce que ça soit, si possible, derrière qu'il y ait une histoire de famille, quelque chose qui soit transmis, en fait, de génération en génération. Et c'est ce qu'on aime avec cette idée des matelas en laine, et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec Marius Fabre. Et il y a effectivement un troisième point qui est important pour nous, c'est l'empreinte écologique. Et donc on essaie de, c'est pas toujours évident hein, quand tu fais de l'hébergement touristique, mais on essaie de tendre vers le zéro déchet.
Super.
Donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas de savon individuel dans les chambres, qu'on fabrique nous-mêmes les produits d'entretien. On a très très peu de plastique.
Trop bien. C'est trop chouette. Alors, si on revient un petit peu maintenant sur peut-être des chiffres, est-ce que aujourd'hui l'activité respecte le prévisionnel que vous vous étiez donné? Est-ce qu'en termes de rentabilité, vous êtes satisfait?
Alors aujourd'hui, on entame notre deuxième saison, mais pour autant, on n'a pas encore clôturé notre bilan. En fait, sur la première année, on a un exercice qui va durer 18 mois. Donc c'est un exercice exceptionnel de 18 mois parce que on voulait pas clore là en décembre, donc en fait on va faire on aura une année et demie d'exercice sur le premier bilan. Donc pour l'instant en fait on connaît pas notre résultat. On est content des tendances qu'on peut voir grâce à notre logiciel de gestion. On voit le taux de remplissage, on voit effectivement le chiffre d'affaires qu'on fait tous les mois, donc on a le sentiment, en tout cas, d'après notre analyse, on n'est pas expert, mais on voit notre rentabilité. De là à pouvoir se payer tous les deux, je pense que ça va être plus compliqué et ça ne sera pas tout de suite. Sachant que, se payer tous les deux, ça veut dire quoi? Ça dépend aussi un peu de notre train de vie. On apprendra aussi, nous, à vivre avec ce qui restera.
Pour l'instant, le calcul, c'est plus de réinjecter, j'imagine.
C'est ça. Ouais. Et donc, pour l'instant, comme effectivement, on a fait le choix de ne pas se payer les premières années, pour l'instant, tout ce qu'on gagne, on réinvestit.
D'accord.
Donc, on en profite. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est cette année qu'on décide d'acheter un reportage photo et de faire des relations presse, parce qu'on se dit peut-être que l'année prochaine, quand tu voudras se payer, on ne pourra plus faire ça. Donc, comme là, on a la trésorerie pour le faire, on le fait cette année.
Mais après, c'est aussi la stratégie, c'est des investissements pour justement augmenter la rentabilité. Donc,
bien sûr.
Ce sera remboursé grâce aux locations que ça, c'est censé générer.
C'est ça.
Ouais.
Et puis après, il y a aussi, alors c'est sûr hein, que nous, en décidant de faire cette activité, on est tout à fait conscient que par rapport à nos revenus précédents, notre train de vie, il va être divisé par 4, voire par 5. Mais d'un autre côté, on vit aussi dans un cadre qui est plus satisfaisant pour nous. La maison, c'est notre outil professionnel, donc on en profite quand même de rien, quand même pas mal. On a moins de loisirs, mais on a aussi un cadre de vie qui s'est amélioré. Donc, ça se calcule pas que avec ce que tu as dans la poche à la fin du mois.
Oui, c'est souvent, tu sais, une question qu'on me pose justement, c'est est-ce que ça, c'est une activité qui est rentable, etc. Combien je peux espérer? Bon, déjà, c'est des questions où il n'y a pas vraiment de réponse parce que c'est tellement particulier selon le modèle, et etc. Mais c'est toujours ce que je dis, effectivement, c'est que on pourra jamais se rémunérer avec un salaire de cadre ou quoi que ce soit. Mais le ratio, il est différent aussi parce qu'en fait, on va peut-être plus être sur un équivalent SMIC, mais le cadre de vie, comme tu l'as dit, le quotidien, la liberté qu'on a, la possibilité de gérer son temps comme on peut, plus ou moins, hein, bien sûr, pas. Ben, voilà, c'est tout ce qu'on gagne, qu'on n'a pas forcément avec un salaire mirobolant non plus. Donc, il faut savoir aussi ce qu'on attend de cette activité quand on se lance dedans. Voilà.
Complètement. Complètement. Et puis, surtout, il ne faut pas nourrir des ambitions qui ne sont pas réalistes. Nous, dès le début, on savait que, de toute façon, c'est pas possible. Avec ce concept de maison d'hôte où tu es quand même limité en nombre de chambres, de capacité d'accueil, etc., tu ne peux pas générer deux salaires. Donc, de toute façon, on sait que si on veut pouvoir en vivre à deux, déjà, il faut revoir ses prétentions de vie. Et puis, surtout, il faut développer d'autres sources de revenus. Donc, c'est pour ça qu'on est content de pouvoir faire des gîtes à côté, qu'on essaye de voir, on a le garde-manger qui rapporte pas beaucoup d'argent, mais comme c'est du service, ben, finalement, ça augmente quand même la fréquentation, ça fidélise.
Ça augmente le panier moyen aussi, ouais.
C'est ça. On a des demandes de shooting, donc ça, c'est pareil, ça rentre aussi en ligne de compte, hein, c'est un business model qui est intéressant à développer.
Tu peux faire la privatisation aussi, donc là on est exactement sur des montants un peu plus conséquents aussi.
Donc voilà, il faut multiplier aussi les sources de revenus, ou en tout cas se dire voilà, comment est-ce que j'ai, et les investissements que j'ai faits, comment j'arrive à maximiser le nombre de jours dans l'année où cette maison me permet de gagner de l'argent.
Tout à fait, ouais. Non, mais c'est top. J'adore ta vision. Et elle est tellement juste. Ça fait du bien de l'entendre. Auditeurs, ouvrez bien vos oreilles. C'est très bien. Alors, si on parle un peu de l'avenir, est-ce que... Donc, y a la petite boudeuse, si je ne me trompe pas, qui doit se préparer encore.
Oui.
Donc, on n'annonce pas de date.
Non, on n'annonce plus de date.
Est-ce qu'après, il y en a encore d'autres, des dépendances qui ont un potentiel de devenir des gîtes ou autre chose?
Alors, on réalise là, en étant en activité, que on a plutôt envie de monter en gamme que de multiplier le nombre d'hébergements. Je m'explique. En fait, on se rend compte que même s'il y a des capacités ici de développement qui sont énormes en termes de nombre de lits, parce qu'on a, il y a 900 mètres carrés construits en tout, donc on pourrait faire un nombre de lits incroyable. Si on multipliait les concepts, on pourrait avoir des maisons d'hôtes, on pourrait avoir des gîtes, on pourrait avoir des maisons de vacances. Mais on se rend compte que finalement, ce qui n'a pas de prix ici, et c'est cette nature qui est omniprésente. C'est fait d'avoir des grandes surfaces qui sont très calmes, tout en étant chaleureux. Et c'est ça que notre clientèle apprécie. Et on préfère finalement développer des services annexes augmenter le panier moyen que de multiplier le nombre de chambres. Donc, je pense que dans la maison, si on peut, on ouvrira peut-être une cinquième chambre parce que c'est notre limite. Donc, si on peut avoir cinq chambres en formule chambre d'hôte, je pense qu'on ira jusque-là. Mais encore faut-il qu'on puisse reconfigurer les espaces communs. Parce que pareil, hein, si tu as compte à 5 chambres, il faut plus de place au petit déjeuner. Tu peux pas garder le même. Enfin, voilà, si tu as un salon qui est fait pour 3 personnes, les gens ont envie de se sentir à l'étroit si on a 10 clients dans la maison.
C'est une voiture aussi en plus. Donc, sur le parking.
C'est voilà. Ça, exactement. Mais bon, on pense qu'on a le potentiel pour avoir 5 chambres dans la maison d'hôtes. Et après, on aura peut-être 2, 3 gîtes. Voilà. Mais on s'arrêtera là. Et on préfère plutôt se dire que il faut faire vivre la maison toute l'année, cibler peut-être d'autres sources de revenus. Et par exemple, si on veut faire vivre la maison hors saison et en semaine, pourquoi pas accueillir des séminaires d'entreprise. Et donc, on a des surfaces qu'on doit aménager. Plutôt que de créer des lits supplémentaires, est-ce qu'il ne faut pas plutôt faire une salle de séminaire, ou est-ce qu'il ne faut pas faire un plateau multi-activités pour pouvoir accueillir des stages de yoga, des stages de pilates, parce qu'on a de la demande pour des cours de chant aussi. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent se faire. Et donc, on est plus dans cette optique. Alors, on n'a pas fait les arbitrages encore, mais on est plus dans cette optique de se dire, plutôt que de multiplier le nombre de chambres et les investissements nécessaires, on se dit, si ces investissements, on les fait plutôt sur des gains de confort et des nouveaux services proposés, Est-ce que c'est pas plus satisfaisant pour nous et pour l'expérience de nos clients?
Oui, parce qu'après, il y a aussi le calcul du temps de travail que ça te demande.
Bien sûr.
En augmentant la capacité, certes, tu, normalement, oui, tu es censé être plus rentable, mais c'est aussi beaucoup plus de temps que tu dois consacrer et d'investissement. Donc, au final, est-ce que c'est un vrai bon calcul? Pas forcément.
Et puis, c'est surtout que ce qui, enfin, la nature même de la maison d'hôte, c'est quand même de côtoyer les gens que tu reçois et que eux nous connaissent. Il faut avoir du temps à consacrer à nos hôtes et nous on adore pouvoir passer du temps avec eux et les conseiller sur des malades. Ben, en fait, quand tu te retrouves à devoir faire 10 chambres, tu peux plus discuter, hein. Et ton petit déjeuner, tu l'expédies et tu, bon. Donc, ou alors c'est un business model différent où tu embauches et dans ce cas-là, tu te retrouves avec des objectifs de chiffre d'affaires qui sont,
très challengeant.
Ouais. C'est ça.
Vous, ça fait pas partie des perspectives, quoi, j'imagine, pour tout le monde, c'est forcément le ménage, si on peut le déléguer à un moment donné, je pense que c'est quand même aussi plus agréable, mais ça fait pas partie de vos objectifs à court terme, en tout cas.
On aimerait l'année prochaine pouvoir avoir de l'aide,
ouais,
sur des choses qui sont peut-être moins satisfaisantes pour nous.
En fait, on fait
tout. Oui, puis il y a des choses clairement qu'on n'aime pas, hein, tu vois.
Bah oui.
Jérémy, autant il adore tondre. Par contre, désherber, on n'aime pas ça, ni l'un ni l'autre. Donc, tu vois, il y a des choses comme ça qu'on va déléguer parce que, enfin, si on peut, parce qu'il y a des choses qu'on n'aime pas faire. Alors, il y a des choses qu'on n'aime pas faire et qu'on continue de faire parce qu'on n'a pas le choix. Puis, il y a des choses, si on peut les déléguer, on le fera. Tu vois, moi, le linge, alors il y a des gens qui trouvent ça vraiment pénible, hein, faire des lessives, du repassage, etc. Bah, moi, je me rends compte que dans un quotidien de maison d'eau, tout est beaucoup sollicité. Bah, c'est ma bulle.
Oui.
En fait.
D'accord. Oui, ça devient méditatif, presque.
C'est ouais. Ça. C'est le moment de rattraper le retard que tu as sur la série que tu as commencé.
C'est
ou
ça.
D'écouter des podcasts, par exemple.
Mais voilà. Oui, oui, non, c'est clair. Il y a un moment où tu es aussi dans, oui, comme tu dis, dans ta bulle, ouais.
Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent être rébarbatives pour certaines personnes et qui, moi, ça ne me dérange pas du tout.
Oui.
Donc, tu vois, s'il y a un truc qu'on doit déléguer, ce ne sera pas la blanchisserie, par exemple.
Mais c'est là où c'est important, tu vois, je trouve, de bien se connaître aussi et de savoir, OK, bon, est-ce que j'ai une valeur ajoutée sur telle tâche ou telle autre? Est-ce que j'ai plaisir à le faire ou pas? Pour aussi, justement, prioriser.
Exactement.
Et savoir qu'est-ce que tu délègues ou pas et où il y a un vrai intérêt à le faire. Pour le côté administratif, est-ce que tu fais appel à un cabinet comptable, justement, pour le suivi
Oui, on le fait pour notre TVA et puis
pour
la société. En fait, on choisit d'être en SAS.
D'accord.
Donc, de toute façon, on a des obligations légales de présenter un client.
Ok, oui. Super. Et alors, si maintenant on regarde plutôt dans le rétroviseur, quelles sont les principales leçons que tu retiens de tout ce parcours de création et de lancement d'activité?
Alors, déjà, la première chose, tu vois, si on revient au tout début de notre échange, sur l'obtention des financements de la part des banques,
oui.
On se dit qu'en fait, effectivement, hein, c'est super quand tu as dès le départ tout le budget pour faire ce que tu veux. Et puis en fait, avec le recul, on se dit, mais en fait, heureusement qu'on n'a pas fait tout de suite les travaux qu'on avait imaginés, parce qu'on aurait fait des erreurs. Tu vois, il y a des choses dans l'aménagement, dans le fonctionnement de la maison au quotidien, où on se dit, mais ça n'aurait pas du tout fonctionné si on avait fait ça dès le départ. Et on se dit, bah, c'est finalement un mal pour un bien de se dire que, bah, il faut expérimenter la maison pendant un an ou deux avant de démarrer certains aménagements, parce que, parfois, t'es sur des fausses pistes. Où tu as des mauvaises intuitions.
Ah ouais, je partage complètement ton point de vue.
Donc voilà, tu vois, ça si on regarde dans le rétro, il y a des choses où on se dit, bon, ben, ça, c'est pas plus mal d'avoir attendu pour le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi comme enseignement? Je pense qu'il faut pas du tout sous-estimer l'énergie et le temps que ça prend. Nous, avant de créer cette activité, on était déjà client de chambres d'hôtes. Et pour autant, même si on était très observateur de l'engagement qu'avaient les propriétaires au quotidien pour leur activité, on était loin d'imaginer l'intensité quand même et la réalité de ce que c'était ce métier en termes de disponibilité et de travail à fournir, de capacité de travail qu'il faut avoir. Parce que clairement, quand tu es en saison, tu. Bah, tu alors, peut-être que ça changera dans les années à venir, hein, mais tu oublies les sorties, tu oublies les apéros avec tes copains. Ça demande quand même une capacité de travail assez conséquente qu'on avait nous pas qu'on avait sous-estimé, mais qu'on n'avait pas pensé aussi. On pensait pas que ça allait être aussi longtemps dans l'année. Tu vois, on savait qu'on aurait des périodes de rush et des périodes plus cool. On pensait pas qu'on aurait autant de périodes de rush.
D'accord. Mais après, ça veut dire que ça marche, donc c'est pas plus mal.
Bah, ça marche, mais c'est aussi que, tu vois, même quand on est fermé, en fait, t'as jamais fini.
Ah ben non,
Parce
c'est
que
sûr.
t'as la taille de la propriété. Alors nous, on savait à quoi s'attendre parce que on a toujours aimé faire des travaux, on est bricoleurs tous les deux. Mais tu vois, quand tu veux changer de vie, tu dis, tiens, je veux faire des chambres d'hôtes, bah, fais bien gaffe à la taille de la maison que t'achètes parce que quand t'as 2 hectares de terrain, qu'il y a de l'eau partout, que t'as des vieilles maisons, etc., bah, t'as toute une partie cachée, en fait, de travail que tu dois accomplir. Parce que si tu commences à devoir faire appel à des pros à chaque fois que t'as un couac, bah, c'est même pas la peine d'espérer être rentable.
Moi, je le dis souvent, dans ma propre expérience, j'avais pas mal anticipé le temps de travail à l'intérieur du gîte, mais les extérieurs, c'est comme si je les avais occultés complètement. Et en fait, je me suis dit, oh mon Dieu, mais le jour où il a fallu effectivement tondre, faire l'entretien de la piscine, bon, moi j'avais sauna, jacuzzi, etc. Oh, je me suis dit, mais Laura, t'as déconné!
Ouais.
C'est fou quand même. Et effectivement, de toute façon, même juste à titre perso, une maison, c'est beaucoup de temps. Mais alors après, quand tu es dans l'activité et autres, c'est non, non, faut absolument pas sous-estimer la charge de travail que ça demande. Ouais.
C'est ça.
Quelle a été la plus grosse difficulté à laquelle vous avez été confrontée? Est-ce que c'est encore la banque ou il y a eu peut-être une galère, quelque chose que vous avez eu à gérer, à surmonter?
Ça, c'est un truc qui est très lié à la configuration de la propriété telle qu'elle est ici. C'est qu'en fait, je te disais tout à l'heure que les anciens propriétaires, ils avaient des gîtes et des chambres d'hôtes et que à la fin de leur activité, pour avoir un peu moins de travail, il y a une partie des gîtes qui ont été transformées en logement et il y a des locataires qui sont là toute l'année. Et bah ça, typiquement, de vouloir lancer son activité sur une propriété où vivent des gens qui sont là chez eux toute l'année, bah c'est une cohabitation qui n'est pas toujours évidente. Et donc ça a été une difficulté pour nous au quotidien de gérer à la fois notre maison, notre lieu de travail et le lieu d'habitation d'autres personnes qui vivent là, en fait.
Que vous n'avez pas
Donc,
choisi en plus.
qu'on n'a pas choisi. Ouais.
Ouais.
Enfin, ça, globalement, ça se passe plutôt bien, hein,
Oui,
mais
oui, oui.
c'est quand même quelque chose qui pour nous s'est ajouté à tout le process de création des maisons,
Oui.
qui est un paramètre, c'était une contrainte supplémentaire.
Mais j'imagine que c'est aussi une charge mentale en plus parce que forcément, il faut être sûr que tout roule et que ça matche bien avec l'activité aussi, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'éventuellement vous pouvez modifier, quoi. Est-ce que vous êtes ouvert à l'idée d'interrompre ces contrats de longue durée ou est-ce qu'au contraire, ça reste quand même une source de revenus à pas négliger?
Alors en fait, nous on cherche pas à les interrompre. Voilà, l'équilibre tel qu'il est fonctionne bien. Par contre, à chaque fois qu'on a eu un départ, on s'est posé la question de remplacer ou pas le locataire. Et là, jusqu'à maintenant, on a récupéré 2 logements et 2 logements étaient transformés en grande boudeuse et en future petite boudeuse.
D'accord.
Mais
Et t'en as encore combien du coup qui sont en location longue durée?
3.
3? Ah, il y en avait 5 en tout. Ok.
Ouais.
D'accord. Et c'est des personnes qui ont quand même une certaine intimité ou ils peuvent côtoyer ta clientèle?
Non, alors en fait on a mis en place une sorte de règlement de cohabitation. En fait, ce sont des logements qui sont très bien équipés, qui disposent tous d'un espace extérieur et ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour vivre de manière indépendante et dans le respect de leur vie privée. Et donc il n'y a pas d'espace en fait ici finalement partagé. parce que les logements se trouvent sur une partie de la propriété dans laquelle ne se rendent pas nos hôtes. Et donc la partie à l'arrière de la maison, de toute façon, nous, on est arrivé, c'est une chose qu'on a demandé à nos locataires, c'est que peu importe comment ça se passait avant nous, nous on souhaitait préserver l'intimité de la maison d'hôtes, et donc les espaces à l'arrière de la maison n'étaient pas accessibles aux locataires.
Aujourd'hui, quel est ton plus beau souvenir de l'activité, de cette aventure ?
Ah bah c'est tous les jours nos plus beaux souvenirs, parce qu'en fait, on est hyper surpris des retours de nos clients. Parce que toi, t'es allé dedans, alors oui, tu te rends compte des investissements que t'as fait, le temps que, et en termes d'argent, mais aussi en temps. Donc t'es fier de ce que tu fais. Pour autant, c'est pas ce que tu fais, ça va pas forcément faire à tout le monde.
Mais tu focalises sur les défauts.
C'est ça. Et du coup, en fait, c'est tous les jours, on est super content de voir que ce qu'on fait plaît. Parfois, on est même surpris de choses qui ne nous satisfont pas et que nos clients adorent. Et c'est surtout ce que nous, on préfère le plus dans les retours qu'on a, c'est quand même mieux en vrai qu'en photo.
Ah, ça, c'est le top.
Et en fait, on préfère ce que dans ce sens-là.
Bien sûr.
C'est vrai, donc là, c'est chouette.
Non, mais c'est vrai que c'est magnifique. Moi, j'adore ce que vous avez fait tous les deux. C'est sublime. Beaucoup de goût et original en même temps. Donc, non, c'est topissime. pour les auditeurs porteurs de projets qui nous écoutent, si certains sont tentés de se lancer dans l'aventure, est-ce que tu aurais trois petits conseils à leur donner ?
Il faut que le couple soit solide. Ça, c'est vraiment impératif. Moi, je me rends compte, quand on a lissé ce projet, j'étais le moteur dans la changement de vie et j'ai dû convaincre Jérémy, mon conjoint, de me suivre, et ça n'a pas été évident. Parce que quand t'es pas l'initiative d'une décision aussi lourde de conséquences pour le quotidien, si ton couple n'est pas solide, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment pas une aventure qu'on peut faire seul. En tout cas, quand on vit en couple, il faut pas penser qu'on va faire ça seul. Ça implique l'autre de près ou de loin, mais l'autre est forcément impliqué dans l'aventure. Ou alors, il faut vraiment être seul et le faire seul. Mais quand on vit en couple, en tout cas, je pense que c'est pas possible de se dire qu'on va faire ça tout seul. Ça a des impacts importants sur la vie de couple. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme conseil? Il faut pas avoir trop de principes théoriques sur le comportement des gens qu'on va accueillir chez soi. Et il faut être ouvert. C'est-à-dire quand on imagine des règles, il faut toujours se dire que la règle, il faut s'autoriser à ce qu'elle puisse changer au bout de, ne serait-ce que d'une semaine, même deux jours parfois. Parce que si on est trop fermé sur les principes et les règles de fonctionnement de la maison, on se plante. Je pense en tout cas, si on veut garantir une expérience qui soit positive pour tous les gens qu'on accueille, il faut se montrer souple. Ce qui n'est pas évident selon les personnalités, mais moi je ne suis pas quelqu'un de souple dans la vie, donc c'est un vrai challenge. Troisième conseil. Si, tu vois, justement, le fait de d'écouter quand même ce que disent les autres, c'est très lié au fait de ne pas se fixer des règles trop strictes et d'accepter d'être souple. Parce que il y a des choses que tu perçois toi avec ton spectre et tu te rends compte que c'est pas parce que c'est évident pour toi que ça l'est pour tout le monde. Voilà, donc pour moi, ça, c'est deux sujets qui sont très liés. C'est vraiment d'un point de vue purement business. Il faut absolument, dès le début, s'assurer que le projet est géographiquement au bon endroit. Que c'est pas parce que vous êtes tombé amoureux d'une maison qu'elle va plaire à tout le monde, parce que parfois si elle est mal placée, pour l'activité touristique, c'est juste pas possible. En fait, c'est pas que du coup de cœur. En fait, c'est important de tomber amoureux de la maison qu'on va investir pendant des années, dans laquelle on va recevoir. Pour autant, c'est quand même votre profession, votre nouvelle profession. C'est avec ça que vous allez gagner votre vie. Et donc, faut quand même s'assurer d'une certaine viabilité dès le départ. Et donc, alors c'est soit ça passe par effectivement le fait d'être bien conseillé, d'être bien entouré, mais il faut surtout être très lucide sur la capacité et le potentiel du lieu dans lequel on imagine changer de vie.
Effectivement, c'est vrai, tu fais vraiment bien de le dire. Il y a l'aspect coup de cœur qui est essentiel puisque vous allez vivre sur place. Donc, il faut que la maison vous plaise, mais il faut que ce soit aussi une super vitrine, au même titre qu'une boucherie ne va pas se mettre en pleine forêt, loin des axes routiers. Bon, ben voilà, votre chambre d'hôte ou votre futur jute, il doit aussi avoir une certaine praticité et visibilité sur un axe ou un site touristique qui va le valoriser aussi. Donc,
ouais. Complètement.
Alors, on arrive déjà à la conclusion. J'ai deux petites questions pour terminer. C'est la première. Donc, dans quel établissement, Jérémy et toi, aimeriez-vous séjourner le temps d'un week-end?
Alors, nous, on adore échanger avec d'autres propriétaires de maisons d'hôtes et de gîtes. Et ça passe beaucoup par les réseaux sociaux. Donc, voilà, on se fait des petites confidences, on se demande des conseils, on prend des nouvelles les uns des autres. Et donc, il y a tout un tas d'établissements où, en fait, on a l'impression de connaître par cœur les maisons et par cœur les propriétaires et, en fait, dans lesquels on n'a jamais mis les pieds. Donc, on a une liste longue comme le bras d'endroits où on doit faire notre tour de France, des endroits où on va. Et donc là, début juillet, on a 3-4 jours off tous les deux. Et donc, on va expérimenter la maison Sérone.
Ah, voilà. Très chouette.
Voilà. C'est incomparable, hein, c'est en termes de capacité. De...
Oui.
Voilà, c'est...
Ils ont une équipe de 30 personnes.
On va faire ça. Donc ça, c'est dans quelques semaines.
Et est-ce que ça veut dire que c'est parce que tu as une privatisation ou parce que tu fermes? Parce que est-ce que tu as la possibilité de prendre ces petits jours de congé parce que vous vous faites remplacer peut-être?
En fait, on n'a pas encore tenté le remplacement.
Ouais.
D'ailleurs, c'est une activité qu'on a découvert en créant la maison d'hôte et en étant sollicité. C'est absolument génial comme métier, ça, de se dire qu'on vient remplacer des propriétaires de maison d'hôte et qu'on fait le tour du monde comme ça.
Oui.
Ça, j'adore l'idée. Non, en fait, là, c'est la configuration de notre planning de réservation qui fait qu'on a on a des longs séjours qui se terminent tous en même temps. Et en fait, on a eu une fenêtre, on s'est dit, tiens, là, il n'y a pas de nouvelle réservation avant 3 jours après.
D'accord.
Et on s'est dit, tiens, ça tombe dans un mois, est-ce qu'on ne prend pas la décision, nous, maintenant, de dire, bon, allez, on regarde l'année dernière, la même semaine, on n'avait personne, est-ce qu'on prend le risque d'avoir qu'une ou deux chambres occupées, ou est-ce qu'on se dit, c'est tout, on ferme et on se repose. Et puis, en fait, quand tu regardes un peu les prévisionnels de l'été, où tu dis, oula, juste après, on enchaîne, on a 3 semaines consécutives, où on a je ne sais combien de renouvellement complet de la maison à faire. Tu dis, bon, bah là, on va prendre 3 jours pour se reposer.
Oui, je crois que 3 jours, voilà. On peut se l'accorder.
C'est ça.
Okay.
Mais c'est comme parfois, tu vois, on voit une semaine avant qu'on n'a personne le dimanche soir. On se dit, bah tiens, dimanche soir, on va se fermer.
Oui, voilà.
Ça arrive.
Tu bloques l'agenda. Ouais, ok.
C'est ça.
Bon. Donc Maison Sérone, très bon choix. Et pour terminer en musique, quel titre illustre le mieux l'état d'esprit de Moulin Moulin?
Écoute, effectivement, nous, il y a une musique qui passe systématiquement dans la playlist du petit déjeuner. C'est une chanson de Norah Jones qui est dans toutes les listes de petit déjeuner de réveil, je pense, du monde. Voilà, mais effectivement, c'est les musiques, tu dis, en fait, celle-là, si je l'entends encore une fois, je vais péter un câble. Et pour autant, elle passe quand même tous les matins au petit-déj, et c'est avec ça que la maison se réveille le matin. Donc, c'est la plus connue, là, comme Away With Me.
Bon, mais parfait, je note ça. Comme ça, on se sentira un peu avec toi. Mais écoute, merci beaucoup Nicolas, c'était vraiment un plaisir que d'échanger avec toi et de découvrir un petit peu plus en détail cette superbe aventure. Plein de bonnes choses pour la suite, un bon petit week-end chez Maison Sérone et puis une très belle saison à venir à tous les deux et une belle continuation. On a hâte de vous suivre et de découvrir bientôt les nouvelles photos et puis la petite bouteuse et tout ça et tout ça. Donc mille merci à toi.
Merci Laura, et à bientôt.
Il est déjà temps de se quitter. Heureusement, vous pouvez retrouver des extraits inédits grâce à votre abonnement à la plateforme. Pour cela, il vous suffit de vous connecter et de vous rendre dans le centre de ressources. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir en laissant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts ou en partageant votre écoute sur Instagram. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau témoignage. En attendant, on se retrouve sur les réseaux ou sur le site www.lesclésdugite.fr. Belle journée! Loving you. Come away with me in the